Et bonjour à tous, bienvenue sur Paris Central. On se retrouve aujourd'hui avec Recoba. Salut Reco.
Salut, salut, salut à tous.
On se retrouve justement pour un petit jeu un petit peu spécial. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça sur Paris Central, mais c'est le retour des VS, c'est le retour des duos, c'est le retour des avis qui divergent et qui ne sont pas d'accord. Et on se retrouve justement ce soir parce qu'on avait un petit jeu. On s'était dit justement, si tu avais droit à une recrue par ligne, qui est-ce que tu prendrais en priorité? Et on a essayé justement de se prêter au jeu en se disant bah, qui on prendrait comme deuxième gardien, étant donné l'état de santé de Sergio Rico, qui est-ce qu'on prendrait en tant que défenseur, parce qu'un défenseur central est actuellement pisté, qui est-ce qu'on prendrait en milieu, et qui est-ce qu'on prendrait dans la ligne d'attaque. Et conjointement à toutes ces données, on a réussi à discuter à l'avance, et par chance, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes choix. Et ça n'a pas été facile, parce que d'habitude, on est plutôt d'accord avec Recoba, mais on a réussi quand même un peu à se dégager. Des différences, lui et moi. Donc justement, je vais laisser Recoba proposer sa piste de gardien numéro 2. Et je te laisse ouvrir le bal justement.
Ouais, on aura en gros une sélection, une première sélection chacun de on va dire du vrai joueur qu'on veut par ligne, et on a toujours une deuxième solution au cas où qu'on vous citera pour au cas où soit le premier joueur il est infaisable, soit peu importe la raison, mais en gros voilà, on a un petit deuxième choix en backup qu'on vous communiquera. Alors du coup pour le gardien numéro 2, bon c'est un peu délicat. Moi j'ai pensé à Ochoa, mais parce que tout le monde en parle ces derniers temps. En fait, le truc, c'est qu'en Ligue 1, un Le Tellier, on l'a vu hein, au dernier match, il n'a pas pris de but, mine de rien. Quand il a joué, il n'avait pas pris de but. Ça reste un gardien de Ligue 1, hein. Il a joué à Angers, si je ne me trompe pas. Donc, il connaît la Ligue 1, ça reste un gardien professionnel. Donc, je pense qu'en Ligue 1, sachant que Donnarumma se blesse peu, il pourra faire le taf. Maintenant, c'est vrai que tu te présentes avec Le Tellier en Ligue des Champions. Bon. C'est pas l'assurance tout risque. Donc, il faudrait un deuxième gardien. Alors, moi, la piste Ochoa, ça me convient bien. Maintenant, il faut voir parce que je suppose que ça doit être un extra communautaire. Donc, après, je crois qu'il a pas mal joué en Italie. Donc, peut-être qu'il a la double nationalité. À voir, à vérifier. Si c'est pas le cas, je pense que en Première Ligue ou même en Ligue 1, il doit bien y avoir un gardien. Par exemple, si Areola, par exemple, à West Ham est passé numéro 1, je ne sais pas du tout, mais peut-être qu'il y a un Fabianski qui peut être disponible. En tout cas, un gardien de 32, 33, 34 ans qui serait peut-être numéro 2 ou qui va passer numéro 2 et donc peut-être accepterait de venir au Paris Saint-Germain. Mais je pense que voilà, il y a quelques pistes et je pense qu'ils y ont pensé. On ne va pas se mentir parce que je pense que Rico, ça va être compliqué pour reprendre une place au niveau professionnel, quoi.
Bah justement, alors moi j'ai pris une autre piste étant donné que, comme l'a rappelé Recoba, on a toujours une limite de joueurs extra-communautaires au sein d'un club. Moi j'ai voulu remplir deux cases plutôt futées. Je me suis dit autant choper un Européen qui connaît déjà la Ligue 1 et je me suis dit s'il est formé en France, ça nous permet d'éliminer certains joueurs qu'on a gardés ne serait-ce que pour cette unique raison au PSG jusque-là. Et moi je suis plutôt un adepte de Unai Emery et de la concurrence. Et moi, je pense qu'aller chercher un jeune gardien avec l'expérience de la Ligue 1, ça pourrait être pas très très bête. La dernière fois qu'on a raté un gardien au LOS qui s'appelle Mike Maignan, et je pense qu'on a de quoi s'en arracher la barbe, Recoba et moi. Donc je propose que cette fois, on évite de faire la bêtise et on recrute le gardien du LOSC avant qu'il quitte ce club. Et je pense que Lucas Chevalier, jeune gardien du LOSC, peut être un gardien très intéressant, peut-être un gardien d'avenir. Il a prouvé en tout cas qu'il a de belles dispositions. Je pense qu'il a besoin de passer le palier supérieur, mais qu'il n'est pas forcément prêt à être gardien titulaire dans les plus grands clubs. Donc je pense que quand on a vu la problématique de Donnarumma, notamment toi et moi, on se posait la question de est-ce qu'on garde à tout prix Donnarumma 10 ans ou est-ce qu'on lui laisse une dernière année et on fait un bilan en fonction. Mais je me dis qu'aller chercher de la concurrence derrière, comme un Lucas Chevalier, au cas où si Donnarumma se blesse, ou même si Donnarumma a des envies de départ, prévoir, bah, c'est quand même pas mal. Donc je me suis dit que Lucas Chevalier, ça pouvait être une piste intéressante.
Bah, en termes de niveau, il a montré des bonnes choses avec Lille. Maintenant, c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, c'est un jeune gardien. Pour moi, un jeune gardien, il a besoin de jouer. Ça a été le cas avec Maignan, par exemple, qui dès qu'il a pu jouer avec le LOSC, bah, il a explosé. Et puis derrière, voilà, il y a le Milan, etc. Donc je pense que Chevalier, c'est un peu la même chose. Alors est-ce qu'il acceptera de venir en tant que numéro 2 alors qu'il a besoin de jouer et qu'il y a des clubs qui lui font confiance? C'est un peu délicat. Et moi, au contraire, j'irais plus sur une piste un peu plus expérimentée, parce que justement, Gigio est jeune. On a vu qu'avec la concurrence avec Navas, bah, mentalement, c'était un peu compliqué pour lui, ça peut se comprendre. Donc, je pense qu'il vaut mieux peut-être lui mettre un vrai gardien expérimenté pour lui apprendre plein de choses qu'il ne sait pas, parce que Donnarumma a besoin de progresser, il est encore jeune. Donc, je pense que ce serait peut-être mieux d'avoir une doublure plus expérimentée que lui, pour déjà ne pas lui mettre forcément trop de pression, même si dans tous les cas, sa place est menacée au Paris Saint-Germain, dans tous les cas, en fait, qu'il y ait une doublure de haut niveau ou pas, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il y a déjà eu une ou deux saisons un peu délicate, des petites boulettes par-ci par-là, il a pas mal de points à gommer, donc il sait déjà qu'il est un petit peu menacé, qu'il va devoir faire une top saison. Donc je pense que pour ça, il vaut mieux le mettre dans les meilleures conditions et avoir plutôt un deuxième gardien d'expérience qui pourrait l'aider mentalement, qui pourrait l'aider aussi à apprendre des choses, plutôt qu'un jeune gardien qui frappe à la porte.
Chose, argument que j'entends tout à fait, mais cependant, comme je l'ai dit, moi j'avoue que si on part du principe que Donnarumma il est un peu sur la sellette, concurrence, c'est pas mal. Parce
vous,
que justement,
vous me direz dans les commentaires.
Voilà, le problème justement au PSG, c'est que souvent on acquit des statuts avant même son arrivée au PSG et ça pose problème ensuite dans le vestiaire. Donc ça permet un peu de casser cette dynamique. Mais voilà, comme tu l'as dit, on vous laissera décider en commentaire de quel choix. Et étant des plus polis, je te commence encore de commencer par le poste de défenseur central.
Alors moi, mon premier choix en tant que défenseur central, c'est Kim Min-jae. C'est pas une piste, voilà, c'est pas une piste exceptionnelle. Tout le monde en parle, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, ça reste un meilleur défenseur de Serie A. J'ai pas besoin de présenter ses qualités. Je trouve qu'il y a beaucoup de, même si c'est pas le même gabarit, il y a beaucoup de similitudes avec Thiago Silva dans son jeu, l'anticipation, les courses, ses sorties de balles, comment il jaillit sur le défenseur, toujours juste. Voilà, sans trop prendre de jaune, sans trop prendre de rouge, c'est toujours très propre, beaucoup d'anticipation, etc. Donc ouais, Kim, pour moi, voilà, meilleur défenseur de Serie A. Par le passé, on a déjà beaucoup de joueurs de Serie A qui se sont vraiment bien acclimatés en Ligue 1 et au Paris Saint-Germain, contrairement à des joueurs espagnols, pour ne pas les citer. Donc c'est vrai qu'en général, quand on recrute en Serie A, on ne se trompe pas. Donc pour moi, Kim Min-jae pourrait être une vraie bonne solution. Maintenant, on le sait, avec la concurrence, c'est très compliqué. Ça se comprend et on en reparlera pour l'attaquant notamment, j'en parlerai à ce moment-là. Sinon, j'ai une deuxième piste, mais vas-y, je te laisse donner ta première piste.
Alors moi, ma première piste, je n'ai pas pris exactement la même logique que toi, parce que je me suis dit qu'on a déjà Marquinhos, on a déjà Danilo, on a déjà Skriniar, donc des défenseurs avec une certaine expérience à un certain âge, on en a déjà. Le PSG est toujours sur Vuskovic, qui est un défenseur très technique. Et moi, j'ai envie d'ajouter un défenseur complémentaire à ça, un défenseur plus rugueux, un défenseur qui, comme tu le dis, est dans l'anticipation, un défenseur qui défend bien. Parce que dans le mot défenseur, il y a défense avant tout. Et moi, j'ai envie, tu vois, de me dire, quitte à bosser avec notre ami Luis Campos et Jorge Mendes, autant aller chercher ce qui se fait de mieux chez eux et arrêter d'aller chercher les bas de panier qui pourraient finir chez Wolverhampton. Donc, je trouve que ce serait une excellente idée de mettre un peu la caillasse sur ce poste et d'être sécurisé pendant 10 ans, à l'image de ce qu'on avait fait avec Marquinhos en 2013, quand on a mis quand même la modique somme de 40 millions, bonus compris, pour Marquinhos, ce qui était énorme à l'époque, ce qui avait d'ailleurs poussé Sacco vers la sortie. Bah, moi, je propose que cette fois, on le fasse avec un autre défenseur, mais d'un autre championnat, il s'appelle Antonio Silva. On l'a vu jouer contre le PSG, pour ceux qui ont regardé la confrontation PSG-Benfica aller-retour. C'est un défenseur qui est dans l'équipe de la saison du championnat portugais à seulement 18 ans, qui a même acquéri de l'expérience avec la Seleção. Donc, un moment, moi, ce que je pense, c'est je préfère sécuriser une bonne fois pour tout ce poste et avoir un défenseur complémentaire à ce qu'on a déjà. Et je pense que la piste Antonio Silva, elle va nous coûter cher, mais si tu mets le prix et que le défenseur, tu l'as pendant 10 ans, est-ce qu'au final, le transfert est si cher payé ?
Ouais, ça s'entend. Antonio Silva, bon défenseur. Après, peut-être très jeune, il va peut-être lui falloir un peu plus de temps, même s'il paraît quand même assez mature, équipe de l'année en Liga NOS, donc c'est propre. Maintenant, moi, mon deuxième, c'est un peu plus comme ça aussi, plus jeune, 23 ou 24 ans, si je ne me trompe pas, c'est Bastoni de l'Inter, parce que pour moi, c'est un défenseur hyper complet, qui est très fort dans les duels, ça va rajouter de la taille aussi. On en a besoin en défense, mine de rien, on l'a vu cette année, on a du mal dans les duels aériens notamment. Danilo nous a fait du bien, il nous a mis quelques buts, il nous a sorti de certaines paniques en défense dans le duel aérien. Donc je pense qu'un Bastoni, ça apporterait vraiment beaucoup, c'est un gaucher aussi. Donc par exemple, j'irais bien plus prendre lui qu'un Lucas Hernandez pour jouer en centrale gauche. 24 ans, il est encore très jeune. On sait qu'un prime d'un défenseur, c'est 27, 28, 29 ans. Donc, il a encore le temps de beaucoup progresser et d'être à son prime. Et pourtant, ça fait déjà plusieurs années qu'avec l'Inter, c'est très costaud. L'Inter en championnat, c'est très solide. On l'a vu en Ligue des Champions aussi. La défense, c'est très solide aussi. Et puis, Bastoni, il a quand même si techniquement, bon, par rapport à Luis Enrique, du coup, techniquement, c'est pas le meilleur joueur balle au pied, mais il a quand même une belle capacité de passe pour ressortir le ballon proprement. Et il a une belle qualité de... Bon, on a un petit tonton qui a bugué là. On a une belle qualité de centre aussi. Comme Bemba, qui le fait à l'OM. On le voit souvent se projeter. On le voit souvent envoyer des centres pour les défenseurs, pour les attaquants, pardon. On le voit souvent comme un ailier un petit peu. Bastoni le fait. On l'a souvent vu déposer des ballons sur Dzeko, déposer des ballons sur Lukaku. Donc ça peut être intéressant. Et ouais, c'est un profil que j'aime bien. C'est un profil, je pense, qu'on n'a pas et qui pourrait nous faire du bien, qui reste quand même jeune. Donc pour moi, Bastoni en second plan, ça pourrait être une bonne chose aussi. Ouais.
Alors, je trouve l'idée sympatoche. Cependant, je reviens sur les propos que j'avais dit l'été dernier lors de la fin du mercato et je les maintiens. Plus de négociations avec la Serie A. Stop. Faut arrêter avec eux. Ils essayent toujours de nous plumer. Donc à un moment.
Et tout le monde.
Tout le monde essaye de nous plumer, mais particulièrement la Serie A. C'est des génies. Les mecs, chaque année, ils vendent des joueurs à plus de 100 millions, mais ils n'ont que 5 millions pour acheter des joueurs derrière. Ils nous proposent des prêts où on prend le salaire en charge à 150%. Donc à un moment, moi, je n'ai pas trop envie de négocier avec eux. Et j'ai plus envie d'aller négocier avec un joueur qui, comment dire, au niveau des négociations de contrat, ça s'annonce un peu compliqué. C'est un jeune défenseur français, axe gauche, donc ce qu'on recherche jusque-là, formé en France, donc on a l'air bon. Et moi, j'ai envie, sinon, de tenter en numéro 2, un joueur qu'on avait évoqué sur ma chaîne quand on parlait des joueurs de Ligue 1 intéressants pour le PSG. Ben, je ressors la carte Castelo Luqueba, 19 ans, défenseur d'avenir. Ça pourrait être justement une bonne idée dans le sens où Kimpembe est blessé. Peut-être que quand Kimpembe reviendra, peut-être que Kimpembe va terminer son contrat et quitter le club libre, ça laisserait à Luqueba un an d'adaptation pour s'adapter au sein de cette équipe. Il y a de la concurrence. Et tout simplement, bah, comme pour El Shaddai, ça semble compliqué. Je pense qu'il va quitter le club étant donné qu'il ne veut pas prolonger et que ce serait bête de le laisser partir libre. Au moins, tu as un backup sympa qui est formé en France, qui a déjà de l'expérience en Ligue 1. Alors, pas encore malheureusement en Ligue des Champions ni en équipe de France, mais quand on connaît la concurrence au poste de défenseur central en équipe de France, il n'y en a seulement que 15. Hein, il y en a quand même 3 qui ont dû changer de nationalité. Il y en a un au Sénégal et 2 en Espagne. Ça montre quand même la concurrence à ce poste. Mais Luqueba est un défenseur d'avenir malgré tout ça et je pense que selon sa situation contractuelle, on pourrait le négocier pour pas si cher que ça.
Alors Luqueba, ouais, je suis d'accord, c'est un vrai joueur d'avenir, un vrai défenseur d'avenir. Je pense qu'il faudrait peut-être s'y pencher dès maintenant, peut-être le prêter dans la foulée parce que je pense qu'il a encore besoin de s'aguerrir. Est-ce que dans un an, on pourrait se présenter et il ne serait pas déjà trop cher? C'est une possibilité, il y a de fortes chances qu'il explose dès la saison prochaine. Donc, il va falloir prendre des contacts rapidement si on est intéressé. En tout cas, c'est vrai que c'est un profil intéressant. Maintenant, autant au niveau de l'âge, bon, ça ressemble à Antonio Silva. Autant Antonio Silva, je pense qu'il est prêt tout de suite, notamment pour des matchs de haut niveau en Ligue des Champions. Autant Luqueba, non. Donc, du coup, pour tout de suite, sachant qu'au Paris Saint-Germain, on a besoin de fiabilité. Bon, je pense que du coup, on va mettre quand même Kim Bastoni et Antonio Silva devant. Mais ça peut être une piste intéressante, ouais.
Oh non, bien sûr, c'est comme j'ai dit, hein, là, moi je restais sur la piste B, mais du coup je te propose, je propose plutôt aux gens qui regardent cette vidéo de nous donner leur avis en commentaire, qui A, B, C, D, hein, vous avez le choix, c'est comme au code de la route, choisissez la bonne réponse.
C'est comme qui veut gagner des millions.
Exactement, et je te propose de qui veut gagner des milieux, et je te propose du coup de proposer ton milieu préféré pour justement répondre au casting.
Alors mon milieu préféré, sans aucun doute, ça reste Barella. Parce que ça fait partie du milieu axial moderne qui sait tout faire, qui a un gros abattage sur le terrain, qui récupère beaucoup de ballons, techniquement très fort, sous pression très fort dans ses, on va dire, dans ses 30 derniers mètres aussi, capable de se projeter, capable de marquer, de trouver des vrais angles de passe, d'être à l'avant-dernière et à la dernière passe. Donc voilà, Barella, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Ça fait partie des top milieux mondiaux. C'est le problème par rapport à un Verratti qui est très bon dans son terrain, dans sa partie de terrain, mais qui, quand il faut aller un peu plus haut, a tendance à trop se décharger du ballon ou a tendance à ne pas réussir à être assez décisif. Et c'est dommage parce qu'il a le potentiel. Je me souviens d'une fois, je ne sais plus si c'était sous Pochettino ou Tourelle, on l'avait fait jouer numéro 10 et mine de rien, il avait sous Pochettino, il avait été très intéressant. Donc, c'est dommage. Peut-être que ça fait partie de son côté manque de personnalité, parce qu'on l'a vu notamment avec Messi. Des fois, il se décharge beaucoup trop du ballon, ne prend pas assez de responsabilités. Donc, voilà, mais c'est pas le cas de Barella, qui lui, il prend tout le milieu de terrain, il n'y a aucun problème. Et avec un Ugarte notamment, où tout le travail défensif va être fait d'une manière admirable, je pense que du coup, à côté, il va falloir un milieu de terrain très complet pour l'aider, mais capable aussi d'être meilleur dans les 40-30 derniers mètres, là où Verratti pêche un peu. Donc pour moi, le milieu idéal, ce serait Barella.
J'entends. Et excellent choix cependant, parce qu'en plus, ça te permet d'avoir le milieu parfaitement complémentaire avec Verratti, parce que tu aurais Ugarte en 6, Verratti en 8 et Barella en milieu offensif. Excellent choix. Cependant, moi, je te propose un autre chouchou. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser en voyant mon faciès, je ne suis pas portugais, malgré les pistes que je vais encore annoncer. Moi, je propose Bernardo Silva, pour la simple et bonne raison que c'est l'alpha et l'oméga de ce milieu de terrain. Tu peux absolument tout en faire. Tu peux jouer avec lui dans un double pivot à côté d'un 6. Tu peux jouer avec lui dans un milieu à 3. Tu peux jouer avec lui en 10. Tu peux même le faire jouer ailier droit selon les situations, ailier gauche. Pep Guardiola l'a même fait jouer arrière-gauche, mais je ne recommanderais pas d'essayer ceci, c'est pas non plus des plus beaux spectacles. Cependant, voilà, Bernardo Silva, c'est un joueur qui est très bon techniquement ballon-pied, peut récupérer le ballon très bas sur le terrain, récupérer le ballon, faire les passes et finir l'occasion. C'est un joueur qui peut être également à la réception de centre pour remettre le ballon au neuf dans la surface pour qu'il termine l'occasion. C'est également le numéro 10 qui peut parfaitement organiser ton jeu. C'est également le milieu de terrain qui peut devenir le player des grands matchs. On l'a vu contre le Bayern et le Real cette saison. Donc au final, prendre Bernardo Silva, en fait, ça correspond à une logique de Luis Enrique. Il cherche un milieu technique, mais il veut être adaptable. Il veut des joueurs polyvalents. Et en fait, Bernardo Silva, non seulement il va pouvoir jouer milieu dans ton 4-3-3, mais si jamais tu es amené à changer, il peut jouer aussi ailier droit, il peut aussi jouer à n'importe quel autre poste au milieu de terrain, et même plus haut sur le terrain encore. Donc je pense que ça te permet tout simplement de résoudre l'énigme et d'avoir la fameuse araignée à 8 pattes, comme dirait Dreyas.
Ouais, en fait, les qualités de Bernardo Silva et ce pourquoi on en a absolument besoin, c'est aussi ses défauts dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que en milieu axial, pour moi, il y a mieux du coup, parce que lui, il peut jouer plus 8-10 dans un milieu à 3, dans un double pivot, j'avoue que j'ai un peu du mal à le voir. Il peut le faire, mais ce n'est pas pour moi le milieu qui en a besoin. Et forcément, quand tu choisis ton attaquant, on a tellement besoin d'un 9 que du coup, on va mettre un petit peu de côté l'ailier, sachant qu'en plus, normalement, il y aura Asensio. Mais évidemment que Bernardo Silva, on en a absolument besoin. Si on pouvait le mettre à côté dans la vidéo, tu vois, choisir un milieu, un attaquant, puis on a Bernardo Silva qui vient tout de suite obligatoirement, ce serait bien. Mais ouais, non, forcément, Bernardo Silva, il peut jouer partout, il nous aiderait énormément. Puis c'est un joueur tellement fort, tellement créatif. Il défend, il fait tout. Donc ouais, ce serait un bonheur de l'avoir, c'est clair. Piste B, Milinkovic-Savic. Parce que pour moi, ça fait partie, c'est un profil, on va dire, différent de Barella, un peu plus offensif, mais capable de jouer même 6, capable de jouer 8, capable de jouer 10. Après, voilà, c'est un vrai milieu axial, plus grand en taille, 1m90, je crois. Donc voilà, avoir de la taille, des fois au milieu, c'est important, mine de rien, ça te permet de gagner des duels aériens aussi, ça met une vraie présence physique. Donc ça pourrait être très complet à Ugarte, très complet à Ugarte et Barella, hein, si on avait le luxe de pouvoir faire les deux au cas où Mbappé partait. Mais pour moi, ouais, Milinkovic-Savic fait partie des milieux de terrain. À un moment donné, il te met 8-9 buts par saison, 8-9 passes décisives par saison. Il est au prime de sa carrière. Ça fait des années qu'il est annoncé au Paris Saint-Germain, qu'on voit qu'il y a un intérêt du PSG. Donc peut-être qu'à un moment donné, il serait temps de le signer. En tout cas, c'est un magnifique joueur et cette année, ça a été un des grands artisans pour qualifier la Lazio en Ligue des Champions. Donc, si on pouvait aller chercher un milieu comme ça, c'est une vraie valeur sûre. Moi, je signe tout de suite.
Oui, Sergei, profil très intéressant. Après, je t'avoue que malheureusement, je ne regarde pas assez la Lazio pour pouvoir donner mon avis dessus. Mais au-delà de ça, tu pourrais tout simplement satisfaire le FC Grinta avec un milieu de terrain composé d'un Uruguayen et d'un Serbe.
Ils oublieront Paredes, je pense.
Oui, aussi. Mais blague à part, je t'avoue que moi, je n'avais pas spécialement proposé une piste B dans le sens où, comme j'ai dit, en fait, Bernardo Silva, c'est littéralement la réponse à l'équation, que ce soit avec ou sans le ballon, il répond à toutes les problématiques qu'on a dans ce milieu de terrain. Donc, voilà, surtout que quand on voit le développement que pourrait avoir un Warren Zaïre-Emery, tu vois, je n'ai pas envie de lui mettre non plus trop de concurrence et j'ai envie de lui laisser du temps pour qu'il se développe.
Ouais, c'est vrai que Warren, mine de rien, on peut limite le compter comme une recrue, hein, parce que bah, Luis Enrique n'hésite pas à faire jouer les jeunes, et mine de rien, avec ce qu'il a montré la saison dernière, il se peut très fortement qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu, et s'il vient à exploser, bah, au final, ce serait limite une recrue, quoi.
Bah pour le coup, Luis Enrique, j'allais dire, il est un peu là où il va bien s'entendre avec Mbappé. Tu lui parles pas d'âge. Si t'es bon, tu joues, t'es pas au niveau, tu t'assois sur le banc et tu t'étais. Mais blague à part, voilà, Warren, je pense qu'il a une carte à jouer dans le système de Luis Enrique et c'est pour ça que j'ai préféré ne pas lui mettre trop de concurrence non plus. Mais je te
Ok.
propose maintenant de passer à l'attaque, sans mauvais jeu de mots, et de me dire quelle est ta piste prioritaire. Et bon, pour le coup, elle est assez évidente et je la comprends, mais j'essaie d'être un peu plus original. Mais j'entends tout à fait ta piste.
Bah, ma piste prioritaire, sans surprise, c'est Harry Kane parce que pour moi, c'est l'attaquant à aller chercher sur ce mercato. Alors après, évidemment, il y a la concurrence et aujourd'hui, le problème, c'est bien la concurrence parce que, bah, on en parlait en début de vidéo, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en plus du championnat qui n'est pas forcément attractif par rapport à la Première Ligue et ton institution qui part un peu en couille où c'est un peu le bordel, où finalement, tu vois le projet, l'institution, tu te dis, bah, je suis beaucoup mieux au Bayern, bah, du coup, tu finis troisième, quatrième choix. Et sur un marché où aujourd'hui ça va être un peu les chaises musicales cet été avec le Real, avec Chelsea, avec Manchester, avec peut-être Liverpool, avec le Bayern qui cherche un numéro 9, Tottenham aussi, puisqu'il y aura sûrement du coup le départ d'Harry Kane. Bah, au final, le Paris Saint-Germain a beaucoup de concurrence et malheureusement, entre la Ligue 1 et les problèmes intra dans le club, bah, c'est compliqué pour un Harry Kane de se projeter au PSG, c'est compliqué pour le PSG de recruter Harry Kane. Maintenant, si évidemment dans un mercato idéal, il y a un joueur. Un attaquant à aller chercher, pour moi, c'est Kane. Ça fait 10 ans, bien plus de 10 ans qu'il est exceptionnel, qu'il fait des saisons stratosphériques avec Tottenham, plusieurs fois meilleur buteur du championnat. Il y a des fois, il a fini à plus de 30 buts, il n'a même pas été meilleur buteur du championnat. Donc, c'est dire quand même, c'est fort quand même d'être meilleur buteur du championnat en Première Ligue. Voilà, il sait tout faire. C'est un attaquant ultra complet. Il sait tout faire, attaquant de surface. Il sait jouer dans les pieds, dans les demi-espaces, dans les petits espaces, etc. Enfin, voilà, les qualités de Kane, je n'ai pas besoin de les énumérer. Donc pour moi, s'il y a bien un attaquant qui est au-dessus du lot, parce qu'on parle d'Osimhen, oui, mais pour moi, Osimhen, il a fait une top saison, il y a des blessures aussi. Ce n'est pas comparable à un Harry Kane, même si ça peut être un attaquant qui te ramène 20-25 buts par saison. Pour l'instant, ce n'est pas comparable à la classe et à la régularité au niveau d'un Harry Kane depuis des années. Donc pour moi, c'est l'attaquant à aller chercher.
Bah, en soi, ouais, le prince Harry, ouais, c'est totalement le profil de joueur qu'il nous faut. Cependant, moi, je t'avoue que le fait qu'il soit anglais, c'est bête
Ouais,
hein,
ça
comme
s'exporte
argument.
mal.
C'est pas que ça s'exporte mal. Alors déjà, oui, pour le coup, je te contredirai jamais. On s'amuse régulièrement à faire le jeu de citer nous plus de 5 joueurs anglais qui réussissent en Angleterre. On aime bien jouer à ce jeu-là, toi et moi. Mais moi, c'est plus dans le fait où je me dis que peut-être, tout simplement, en étant un peu pessimiste, bah, on n'est pas forcément une option pour lui. Et du coup, bah, moi, j'essaie de me rabattre vers des pistes qui sont bah, financièrement réalisables et dont on sait que les clubs peuvent être dans une certaine situation. Alors, ma piste A, spoiler, n'est pas portugaise. Ah, je vous y attendais pas, celle-là. Je vous ai pris de surprise. Eh oui, non, parce qu'il faut dire,
Bah
attends,
attends,
parce que
peut-être
là,
l'abbé, peut-être l'abbé.
ah, peut-être, hein, on ne sait jamais. Alors, merde. Mais non, justement, ma piste A n'est pas portugaise, elle est serbe. Et moi, j'irai chercher du côté de la Juventus, tout simplement, Dusan Blajovic, parce que, bah, comme j'en parlais dans mon live où je parlais des joueurs à relancer, bah, pour moi, Blajovic, sa situation, elle ressemble beaucoup à celle de Matthijs de Ligt quand il quitte la Juve. On pense que le joueur, en fait, il est peut-être vu trop beau que ce qu'il est réellement, mais on se rend compte, en fait, que peut-être que le contexte actuel de la Juve, bah, c'est pas le mieux. Et j'ai l'impression que Blajovic, bah, quand tu vois son profil de jeu, le fait que ce soit un pivot, le fait qu'il est grand, le fait qu'il ait une grosse frappe de balle, le fait qu'en plus il sache tirer les coups francs et qu'il soit gaucher, deux données assez intéressantes dans le marché actuel, bah, tu dis que, en plus, attends, pour de la tête, on a des pistons qui n'attendent que de centrer. Je me dis qu'il a quand même énormément d'atouts à ce poste. Et en plus, bah, la Juve, bah, il pourrait en vouloir entre 60 et 70 millions. Si t'es futé, t'essayes de leur inclure un Icardi dans le deal parce qu'à un moment ils l'ont voulu. Ou alors tu peux essayer de négocier parce qu'à ce qui paraît, ils essaient de négocier le prêt d'Ekitike. Bah, tu peux t'arranger aussi avec Ekitike. Des solutions existent en fait concernant la Juve pour essayer de leur soutirer Vlahovic. Peut-être pourquoi pas leur proposer un autre joueur. Peut-être qu'il y a un joueur du PSG qui les intéresse et qui voudrait en échange qui serait prêt. Bah, bon, je pense pas qu'ils feront l'échange. Je pense qu'ils seront plus dans une espèce d'Arthur Pjanic comme à l'époque, tu vois. Mais il serait prêt peut-être à nous récupérer un joueur dans la transaction, tu vois. Donc je me dis, autant exploiter cette faille, parce que si on l'exploite, Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourrait même se payer 2-9.
Ouais, je peux pas te contredire là-dessus. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, ça reste déjà, c'est mon choix 3 derrière Kane Osimhen. Et ça me semble, je suis d'accord avec toi, le choix, on va dire, le plus accessible, le plus probable pour le PSG quand on voit la concurrence des autres dossiers. Et tu l'as bien dit, effectivement, la Juve pourrait nous le vendre, déjà parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions l'année prochaine, il y a une situation financière un peu délicate. Et en plus de ça, bah, il y a eu les rumeurs comme quoi ils s'intéressaient à Ekitike. Et puis tu peux toujours leur refourguer, Icardi. Donc tu as quand même des arguments, mine de rien, bien plus que sur les autres dossiers. Donc oui, Vlahovic, après ses qualités, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je ne vais pas les énumérer. Mais évidemment, par rapport à notre équipe et à ce poste de neuf qui manque, par rapport à tes pistons, etc., ouais, ça pourrait être une top recrue. Donc ouais, je te rejoins totalement pour Vlahovic. Et pour moi, du coup, ma deuxième recrue à ce poste, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est un joueur qui, par rapport à Luis Enrique, me fait penser qu'il pourrait être un joueur exceptionnel et qui explose vraiment et qui pourrait s'épanouir vraiment. C'est Julian Alvarez, parce que déjà à Manchester City, il est remplaçant. Donc à un moment donné, bon, c'est sûr que c'est compliqué d'aller le dénicher. Il a fait qu'une saison, il a eu quand même du temps de jeu, mine de rien. Il a mis beaucoup de buts aussi. Et je pense que City compte sur lui parce que peut-être qu'à terme, Haaland finira par partir au Real ou autre part. Donc je pense que quelque part, ils veulent vraiment garder Alvarez. Mais à un moment donné, tu es le Paris Saint-Germain. Tu lui proposes une place de titulaire, de jouer avec des grands joueurs. Bah, c'est quand même un vrai beau challenge. Tu peux augmenter son salaire aussi. Il peut être un vrai taulier et avec un Luis Enrique qui peut le convaincre en lui montrant. Parce qu'en fait, moi, pourquoi je choisis aussi ça, c'est par rapport à Suarez. Suarez sous Luis Enrique, il a littéralement explosé. C'est devenu limite le meilleur attaquant de la planète hein, à ce moment-là. Donc pour moi, Alvarez, en fait, il a beaucoup de similitudes avec Suarez. C'est un petit taureau qui court beaucoup, qui avale les espaces, qui est très technique aussi, qui peut jouer en remise. Même s'il est petit, il tient sur ses jambes. C'est un joueur infatigable qui peut t'étirer vraiment une défense et te fatiguer une défense et qui sait tout faire, qui sait vraiment tout faire. Donc pour moi, ça pourrait être limite notre Alvarez, ça pourrait être le Suarez de Luis Enrique quand il était au Barça. Donc j'adorerais vraiment le voir sous nos couleurs. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas facile d'aller convaincre City. Mais convaincre le joueur, je pense que c'est possible. Et à partir du moment où tu arrives à convaincre le joueur, s'il pousse un peu la porte, peut-être que tu peux l'avoir. Et je pense qu'un Luis Enrique pourrait réussir à le convaincre. Donc voilà, c'est mon deuxième choix, on va dire.
Alors, c'est un excellent jeu de mots et j'encourage Julian Alvarez à pousser Emeric Laporte comme ça, avec un peu de chance, il nous refaudra. Blague à part, moi, ma piste 2, ben, spoiler, elle est portugaise cette fois. Oh, purée, zut, décidément. C'est vrai que finalement, c'est compliqué de faire croire aux gens que je suis pas portugais. On me dit, non, mais tonton, arrête de nous mentir. Regarde les joueurs dont tu parles. Bah
On
ouais,
a
le
la
deuxième,
sélection
du coup.
nationale.
Ouais, c'est ça, le Portugal Saint-Germain, c'est la fameuse propagande qu'on a lancée il y a un an. Non, bah, la deuxième piste, bah, c'est Gonçalo Ramos, hein, tout simplement, parce qu'à un moment, si tu ne peux pas faire Vlahovic, que Osimhen signe dans un autre club, que Kane finisse dans un autre club, j'ai pas envie de finir avec certains joueurs, tu vois. Et je me dis qu'un Gonçalo Ramos, c'est quand même un certain pari. Cependant, s'il est bien utilisé dans une équipe qui tourne bien, bah, c'est mieux de le payer un peu cher maintenant, que encore plus cher dans un an. Et il fait partie de ces joueurs qui, bah ouais, ils ont une clause libératoire élevée. Mais si tu négocies avec le club, peut-être que si tu fais une offre raisonnable pour le joueur, bah, peut-être que le club serait amené à y réfléchir. Et je dis bien peut-être avec des gros guillemets, parce que bien que le PSG et le Benfica n'aient pas de mauvaises relations, bien, bien au contraire, ils ont des bonnes relations sur le mercato en tout cas, bah, on sait que ils n'auront pas forcément envie de perdre Gonçalo Ramos s'ils ne sont pas capables de retomber sur leurs pattes derrière. Et en fait, c'est logique, tu ne vas pas leur demander de leur vendre de leurs joueurs pour se retrouver à poil derrière. Donc c'est un plan B. Moi, mon plan A reste Dusan Vlahovic, qui a joué dans quand même, tu sais, ce club avec cette exigence, même si ce n'est pas la Juve Prime. La Juve, il y a quand même une certaine exigence du haut niveau. Et je me dis que Vlahovic a un peu plus le profil, a un petit peu plus de capacité, de caractéristiques utile au poste de neuf moderne que Gonçalo Ramos, notamment, mais le fait de tirer les coups francs, qui est un petit plus très utile. Mais cependant, voilà, j'ai un petit peu réfléchi avant de trancher entre les deux, même si j'ai une légère préférence pour Vlahovic quand même.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une préférence aussi pour Vlahovic, techniquement et même plus mature. Après, Vlahovic a peut-être 2 ans de plus, 1 an ou 2 ans de
Il a
plus, je sais
23 ans,
pas.
Vlahovic, ouais.
Ouais.
Et
Donc
Gonçalo Ramos
voilà.
a
Et
21 ans, 22 ans, ouais.
voilà. Et c'est justement pour ça que je veux pas Gonçalo Ramos, parce que Bon, il y a eu une bonne première partie de saison, mais la deuxième partie de saison un peu plus en demi-teinte. Et moi, je ne le sens pas encore prêt. Alors après, si on le recrute, bon, ce sera une bonne chose parce que je pense que dans le futur, ça va devenir un top attaquant. Mais je pense qu'il n'est pas encore prêt pour jouer au top niveau dans un grand club. Enfin, on va m'insulter encore les Benfiquistas. Oui, Benfica n'est pas un grand club. Mais voilà, un club qui, on va dire, aspire à gagner la Ligue des Champions, qui a une vraie exigence. Enfin, après, le Paris Saint-Germain est peut-être un mauvais exemple. Mais bon, en tout cas, voilà, vous m'avez compris. Ça reste dans les favoris de Ligue des Champions au début. On en parle comme voilà. Et il y a ce projet-là. Ouais, je le sens pas encore prêt. Je pense qu'il a encore besoin de rester une année au Portugal, encore dans son jardin, grandir. Et puis, moi, je prends souvent l'exemple de Darwin Núñez, mais Darwin Núñez, il a fait une top saison avec Benfica. Il est parti au bout d'un an et la saison là avec Liverpool, ça a été compliqué, manque de confiance, pas assez bon. Voilà, il y a eu des crises de confiance, etc. Ça a été compliqué pour lui. On l'a pris pour un peintre, alors qu'en vrai, c'est un excellent joueur, mais il est vraiment en manque de confiance. Et Liverpool va devoir prendre du temps avant qu'il soit vraiment au top. Et je pense qu'avec Ramos, ça peut faire la même chose. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il y a d'autres attaquants d'abord à aller chercher. Alors après, effectivement, oui, dans un an, dans deux ans, ce sera peut-être bien plus cher du coup. Mais ouais, pour l'instant, prêt tout de suite. On a besoin d'un neuf très fiable et je pense que Ramos ne l'est pas encore.
Ouais. D'où le fait que ce soit mon plan B, et je vais même de me rappeler d'une petite chose. Newcastle est intéressé par le joueur, donc de toute manière, c'est pas comme si on allait avoir beaucoup de temps pour négocier avec lui. Donc ça résout aussi le casse-tête de qui est le plan A et qui est le plan B. Mais en tout cas, pareil hein, comme pour les autres postes, hein, n'hésitez pas à dire bah, A, B, C, D, hein, les réponses, on est comme au code de la route. Hein, si vous voulez justement valider l'épreuve, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en tout cas. On a en tout cas exploré le sujet d'après ce qu'on a vu. On l'a plutôt bien bouclé. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que pour vous, bah, c'est plus Ricoba ou moi qui avons raison ou aucun des deux?
Et vos pistes à vous aussi. Voilà, vos pistes à vous, dites-nous ligne par ligne qui vous auriez choisi.
Voilà, et n'hésitez pas à vous proposer les pistes les plus comment dire, onéreuses, les plus farfelues. On ne sait jamais. Peut-être que certaines sont plus réalisables que ce qu'on croit et peut-être que certaines sont moins réalisables que ce qu'on croit. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau dans l'aventure. Merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao.